voit les premiers gros morceaux de glaçons. Et au loin, la banquise toute disloquée, donc le pack de glace, quoi.
Communication de la passerelle, nous venons de franchir le cercle polaire antarctique.
On vient de croiser une baleine, on a vu nos premiers manchots empereurs, nos premiers phoques. C'est, sans parler des oiseaux, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, quoi.
Enfin, il n'y a rien de plus qui ressemble à un iceberg qu'à un autre iceberg. Mais c'est grandiose, quoi, de voir tout ça, tous ces manchots là partout, c'est juste incroyable.
Quand même, en voyant ça, ça doit quand même aider à vouloir défendre la planète, quoi.
Je sais pas, je dirais que j'ai la tête vide là, je suis juste super calme, puis super apaisé. Je sais pas, je me sens tout petit et j'ai un peu froid aux mains.
Donc voilà, on est là sur l'île du Lion, et on va aller sur l'île des Pétrels sur laquelle il y a la base de Dumont d'Urville. Bienvenue, on est content de vous voir.
Un été en Antarctique. Nicolas Martin, Yvon Croisier. Quatrième épisode. Bienvenue à Dumont-d'Urville.
Dumont-d'Urville, c'est une dizaine de bâtiments sur pilotis qui ressemblent à des préfabriqués de couleurs vives, orange, vert ou bleu, qui contrastent avec le blanc de la glace. Et surtout, ce sont les manchots adélies qui sont absolument partout, des manchotières de milliers d'individus.
Cette première nuit en Antarctique, Christophe, c'était comment ?
C'était super, on voit la mer, on voit les icebergs qui se forment, on voit le glacier. On voit tous ces manchots qui nous accueillent, c'est top.
Le jour polaire, ça vous empêche pas de dormir ?
Non, ça va. En même temps, je suis fatigué du voyage, etc. Donc je pense que c'est normal, je sais pas comment ça se passait sur le long terme. Ça va, j'ai bien dormi. Au contraire, je suis bien tombé comme un caillou, malgré que mon voisin de chambre ronfle. Et que c'était ma petite surprise hier soir. C'est l'Antarctique qui te salue.
Lundi 10 décembre, la première nuit sur la base a été agitée. Joie des arrivants de poser pied à terre, de découvrir l'espace où ils vont passer la prochaine année. Face à eux, les hivernants sortants sont plus mesurés. Il y a comme une méfiance, une mélancolie qui essaye de se dissimuler aux yeux de la collectivité, mais qui se perçoit dans les regards. Et puis tout ce monde, d'un coup, pour eux qui ont passé des mois entiers seuls à 25, tous ces nouveaux inconnus qui viennent leur prendre leur espace. Au matin, dans le salon salle à manger, après le petit déjeuner, premier grand briefing de sécurité avec la chef de district, Hélène Larmet, et le médecin de base, Jacques Devaux.
Bon, vous êtes attentif ? Ça va faire beaucoup d'infos. J'en suis désolée d'avance, il y a pas mal de trucs qui sont importants. Parce qu'on est dans un milieu qui est un petit peu dangereux, un petit peu hostile, et que du coup, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Donc, bienvenue à nouveau sur la base de Dumont-d'Urville. Donc nous sommes en Terre Adélie, qui est donc un secteur du continent antarctique dont la France a une forme de gestion, donc on n'est pas en territoire français. Nous sommes sur une base qui est administrativement rattachée au TAF, aux Terres australes et antarctiques françaises, et dont la gestion opérationnelle a été déléguée à l'IPEV en grande partie. La base de Dumont-d'Urville est constituée de deux parties. On est ici sur la base haute. On retrouve un certain nombre de labos, Météo France, le bureau technique, un certain nombre de stockages, la centrale électrique, élément évidemment essentiel ici pour la production d'énergie et d'eau. Pour rejoindre la base haute et la base basse, ne quittez jamais le chemin de corde. Il y a de chaque côté des zones d'études, zones magnétiques et zones sismiques. Si vous quittez le chemin de corde, donc il y a des piafs que vous allez déranger et éventuellement aussi porter préjudice aux études en cours sciences de la Terre. Au niveau des déplacements, donc comme je vous disais, la circulation sur les passerelles, ça arrive chaque année, c'est pas juste pour l'anecdote. Les passerelles, elles ont l'air super comme ça, elles sont quand même particulièrement glissantes, surtout avec les conditions qu'on a de météo en ce moment où on tourne autour du zéro. Avec du gel et du dégel.
Bon, si on vous fait une présentation tout de suite, sur le plan médical, c'est parce qu'ici, les conditions sont quand même très particulières. Donc, les moyens qu'on a ici, l'hôpital il est situé au 42. Il y a un médecin en permanence, du moins en permanence, sur la base. C'est un mini-hôpital, il y a tout ce qu'il faut, un bureau, une salle de soins, un cabinet dentaire, un matériel de laboratoire et un matériel de radiologie. Donc vous voyez que vous avez quand même une grande richesse, puisque pour 50 personnes, l'été et pour 24 l'hiver, vous avez beaucoup plus que la population moyenne. Donc les particularités de la médecine ici, donc c'est l'isolement extrême. On est quand même dans une des zones les plus isolées de la surface du globe et la moins accessible. Les rapatriements, ça peut se faire l'été. C'est déjà lourd. Par contre, il ne faut pas compter dessus pour l'hiver. Il faut considérer qu'on est en zone inaccessible l'hiver ici. Donc il faut toujours avoir ça dans un petit coin de la tête. Il ne faut pas que ce soit un blocage, mais il faut le savoir. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la base et il y a quand même pas mal de risques liés à la géographie, à la configuration des lieux, des bâtiments et des activités. Donc ça demande une grande prudence de manière à ne pas avoir trop d'accidents. Sachez une chose, c'est que la plupart des gros traumatismes, ils se passent dans les périodes de fête et relativement peu sur les périodes de travail. Donc par pitié, faire la fête, oui, ok, mais faites attention et surtout protégez-vous les uns les autres. Donc ce que vous comprenez là-dessus, c'est que le plus important, c'est que dès le moindre signe, vous venez voir le médecin. Vous attendez pas. Vous n'êtes pas comme en métropole, vous n'allez pas gêner le médecin. Il a le temps pour vous voir et il faut venir le voir pour rien. Vous commencez à avoir une sensation de chaud, de froid sur une dent anormale. Vous avez une petite douleur, mais qui vous monte de temps en temps. Vous venez voir clair, s'entraîner, parce que ça se gérera simplement. Si on en arrive à l'abcès dentaire, ici, malheureusement, les soins conservateurs, ils seront probablement difficiles. Vous risquez de vous retrouver avec une quenotte en moins. Hein. C'est ce qui vous pend au bout du nez et des douleurs bien sévères. Donc, allez-y dès que vous avez la moindre alerte. Question de vous faire peur un petit peu quand même. Vous voyez quand même qu'on meurt à Keralélie, sur 60 années. Alors effectivement, c'est pas énorme, mais ça prouve quand même qu'il peut y avoir un risque vital. Voilà. Des questions? Des peurs? Des frayeurs?
Moins 20. Donc en gros, t'as tout ce qui est thé, café. Et en hiver, t'as intérêt à bien préparer
l'hiver,
ta manie de vivre.
L'hiver, t'en vas le service base te chercher.
Parce qu'il faut déneiger la porte et t'as à peu près.
Celle-là, tu peux pas l'utiliser de porte. Celle-là, elle est bouchée. Il y a une congère jusqu'au toit.
Pareil, en haut de la porte.
Ok, donc tu déneiges avant de rentrer, quoi.
Ouais. Ah bah sinon, tu peux pas rentrer. C'est sûr.
Ouais. La vie a des fais gaffe de bien déneiger parce que si tu le fais pas, la porte elle se referme pas correctement.
Ouais.
La neige qu'il y a dedans elle fond, elle regèle parce que l'intérieur ça gèle quand même. Mm-hmm. Et après la porte est collée.
Ah ouais.
Et tu peux plus rentrer.
Ok.
Pour les nouveaux arrivants, donc on est dans une situation un petit peu particulière, vous savez que c'est assez maritime. Vous n'avez pas forcément de point de comparaison, mais généralement il y a une banquise qui vient déterminer très clairement les périmètres sur lesquels vous allez pouvoir évoluer. Je vais vous demander, tant que vous n'avez pas eu de formation sur la banquise et de formation par le médecin au premier secours, de ne pas quitter Pétrel, même pour aller sur le Lyon, sur la ZSPA, tout seul. En fonction de l'étendue de la banquise, on va définir une zone 1, donc où vous pouvez aller à une personne, en passant un appel radio, suivant si vous éloignez beaucoup ou pas. Le radio, c'est celui qui va savoir où vous êtes. Donc si au bout d'un moment, il n'a pas de nouvelles, il va pouvoir effectivement s'inquiéter. Vous allez aussi pouvoir le contacter, vous, si vous avez besoin. Donc une personne dans la zone 1, zone 2, 2 personnes, zone 3, 3 personnes. À partir d'une certaine distance, vos déplacements seront soumis à l'autorisation d'Alain. Donc en rouge, comme je vous disais, la ZSPA, je pense que vous avez déjà entendu ce terme-là, c'était la zone spécialement protégée pour l'Antarctique, la numéro 120 ici. Ça, c'est une protection au titre de l'environnement. Il existe une seconde ZSPA en terre adélie, qui est celle de Port-Martin, et donc qui va porter sur la partie patrimoine historique, comme on disait, à 60 km, et qui vient se souvenir qu'on a des collègues pionniers qui étaient allés installer tout ça. La ZSPA 120 ici, donc celle qui est entourée en rouge, elle va concerner quatre îles, donc l'île Claude Bernard, la Marque, Rostand El Mogouen, le Nunatak du Bon Docteur et la colonie de Manchot Empereur. Pour pouvoir accéder à ces zones, il vous faut absolument un permis. En pratique, ce sont les ornithos qui ont un certain nombre d'accès autorisés dans l'année pour un certain nombre de manipeurs, pour des opérations qui sont évidemment bien déterminées en amont. Ce sont des sites de nidification très importants, de fréquentation, de reproduction des oiseaux de l'archipel. Et donc, il est formellement interdit d'y aller, sauf autorisation. Donc, on a une hivernante qui s'est fait attaquer par un léopard de mer. Elle s'est fait attaquer donc à 3 mètres du bord. Il y avait des petits manchots qui allaient à l'eau à côté, donc il n'y avait absolument rien. Comme signe précurseur qui pouvait dire qu'elle est en danger. Ça, c'est un truc qu'il faut que vous ayez en tête. C'est pas parce que vous avez l'habitude de faire de la montagne en France que vous avez une appréciation des risques ici qui est bonne. Il y a toujours une marge de sécurité qu'il faut s'imposer. On est effectivement dans un milieu qui est dangereux. Donc elle s'est fait attaquer à 3 mètres du bord. La bestiole l'a happée à la cuisse sur le côté. Elle ne l'a pas vue parce qu'elle était derrière. Donc en termes, je vous laisse imaginer aussi ce qui peut se passer dans la tête dans ces cas-là. Elle a absolument aucune image à coller sur l'accident et pour évacuer le truc. Et c'est la personne qui l'accompagnait qui a effarouché l'animal qui est parti. Donc le but de cette bête-là était d'attirer l'hivernante dans l'eau. On a échappé à, très clairement à un danger de mort. Donc c'est pas pour vous traumatiser, mais voilà. Donc ça fait partie des hypothèses à prendre en compte. Les icebergs, il y a un certain nombre d'interdits en terre Adélie. Il y en a deux qui ne sont pas discutables. C'est grimper sur un iceberg, qui peut se retourner à chaque instant, et aller accéder au glacier de l'Astrolabe. Ce sont deux choses qui sont absolument inenvisageables ici. Et les banquettes, donc ça vous allez le voir avec les redoux, c'est que vous êtes sur la glace de mer, vous pensez que vous êtes en sécurité, vous allez en bord banquise, en fait ce que vous ne savez pas, c'est que dessous ça a été grignoté par la marée, par la houle. Voilà pour la partie sécu, est-ce que vous avez des questions? Ça vous paraît à peu près clair?
Oui.
Sinon je recommence. Hein.
Je m'appelle Patrice Bretel et je suis donc responsable du département infrastructure et logistique polaire à l'IPEV. Alors là, c'est mon troisième été donc sur la base. Donc c'est ma troisième saison et la saison où vraiment je suis complètement en responsabilité sur l'ensemble des opérations. Donc là, c'est le grand bas.
Ça consiste en quoi justement votre rôle? Comment est-ce qu'on organise le fonctionnement d'une base aussi importante avec autant de gens, avec autant d'allers-retours entre les hivernants, les estivants, la campagne d'été?
Alors en fait le travail a deux dimensions, une dimension de préparation très importante donc qui se fait au siège de l'IPEV à Brest. Et puis donc une partie administrative, financière, une partie aussi en lien avec tout ce qui est technique. Et puis aussi beaucoup de logistique, donc sur tant pour le matériel, pour les activités scientifiques, mais aussi tout ce qui sert à la maintenance des infrastructures sur les bases et toute la logistique lourde.
Tout prend des proportions plus complexes, plus lourdes, plus difficiles à organiser. Il faut beaucoup plus anticiper. J'imagine que tout ça, ça demande évidemment beaucoup de préparation en amont.
Alors effectivement, la dimension temporelle dans les activités polaires, elle est importante. Elle se traite à deux niveaux. On a un niveau de préparation et de programme de travaux qui implique, vu effectivement l'éloignement et les difficultés d'accès, d'avoir des programmes sur au minimum deux ans. C'est-à-dire que si on prévoit de réaliser un chantier, il faut prévoir l'approvisionnement l'année d'avant pour un travail campagne suivante, donc c'est un minimum de 2 ans. Et puis il y a une échelle de temps qui est très très courte, qui nécessite des prises de décision souvent avec beaucoup de conséquences, mais sur des temps de réflexion réduits, notamment en liaison avec l'aléa de la glace de mer, les conditions météo, des problèmes sur des jonctions avions, des choses comme ça. Et on peut se retrouver à prendre des décisions qui impactent très lourdement une campagne. Et là, faut tout reconfigurer très très vite. Ça peut être assez compliqué, ouais.
Une base comme du Mont-d'Urville, ça brasse combien de personnes sur une année complète révolue?
Alors, en capacité d'accueil, on doit plafonner un peu plus de 100 places, avec donc la sortie des hivernants et l'entrée des nouveaux hivernants, plus tous les campagnards d'été, techniciens, et évidemment les scientifiques.
Comment, vous qui avez un peu une vision globale, comment est-ce que vous définiriez le point commun entre toutes les personnes qui viennent, qui se rendent en Antarctique? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, qu'il y a une sorte de virus, une passion, une configuration particulière humaine qui fait qu'on a envie de venir ici, qu'on vient passer une année complète, qu'on se coupe un peu du monde?
Alors effectivement, oui, il y a une... Je pense qu'il y a un imaginaire un peu commun sur l'épaule. Après, la déclinaison, elle peut être très très différente en fonction des personnes. Et d'ailleurs, quand on fait des entretiens d'embauche, c'est une question que j'aime bien poser, c'est de dire vous venez dans une optique strictement professionnelle pour avoir une expérience professionnelle différente, et ou est-ce qu'il y a une dimension passion qui vous anime plus? Et là, les réponses peuvent être différentes. Il y a des gens qui veulent vraiment pousser jusqu'au bout leur capacité professionnelle ou se tester, aller au bout de leur métier, hein, quelque part, en se mettant dans un environnement particulier comme ça. Et il y en a d'autres, c'est vraiment une passion, une attirance pour le milieu polaire. Et finalement, l'aspect professionnel est un petit peu en retrait. Faut dire que on est quand même dans un environnement qui est hors norme. On met en œuvre des moyens hors normes aussi. On utilise beaucoup l'hélicoptère ou on a ces rotations avec le bateau. On passe les 40e, les 50e. Enfin bon, tout est un petit peu hors échelle. Et je pense que là, quand on accroche à ça, ça devient effectivement naviguer entre des icebergs ou arriver sur face à la calotte de glace face au continent, c'est quelque chose qui est c'est prenant quoi, c'est fort.
Vous les ressentez vous-même puisque vous étiez en Norvège avant l'addiction polaire, vous êtes aussi victime du virus?
Ouais, je sais pas si on peut dire victime. Disons que c'est un intérêt. Personnellement, j'ai plutôt un profil scientifique, et c'est vrai que venir travailler en Antarctique, c'est un peu un aboutissement à la fois professionnel, parce qu'on va vraiment travailler dans des milieux extrêmes, et puis il y a cette passion quoi, hein, d'aller encore à l'esprit un peu d'exploration. Bon, c'est tout relatif maintenant, hein, faut pas non plus on n'est pas des héros polaires, hein, on a quand même beaucoup de confort. Bon, des fois ça peut être un risque aussi, hein, avoir une fausse impression de sécurité parce que les bases sont confortables, on prend une douche tous les matins, etc. Sauf que il faut toujours garder à l'esprit qu'un problème d'énergie sur une base, ça pourrait devenir très vite un problème. Donc il y a cette un peu pas ambiguïté, mais faut toujours garder à l'esprit qu'on est dans un milieu hostile.
Ok, en termes de fourniture électrique, on a aussi des tuyaux qui ne sont pas si gros que ça. Évidemment, toutes les économies que vous ferez, c'est tout litre de gasoil qui n'aura pas besoin de venir acheminer ici, ce qui est fondamental en termes financiers pour le contribuable. Environnemental, il y a des années où ils ont été obligés, à cause de la présence de la banquise, d'emmener le pétrole par hélico. Vous imaginez, donc mètre cube par mètre cube. La consommation de la base, c'est à peu près 300 mètres cubes par an. Donc ça fait quand même beaucoup d'allers-retours, et on sert aussi de base arrière pour approvisionner Concordia. Donc tout le pétrole passe par chez nous, et c'est important. Je pense que s'il y a un endroit pour avoir un comportement exemplaire, c'est bien là. Vous avez des questions? L'eau, je vous ai fait un petit message hier, parce que c'est vraiment important, on est nombreux. Il y a une méthode de production particulière de l'eau, je ne vais pas m'étendre ici, parce que sinon ça va vraiment vous bourrer le crâne, mais c'est passionnant. Allez faire un tour à la centrale, qui vous explique comment l'eau est fabriquée. Allez voir Maëlle.
Maëlle, on est chez vous. Racontez-moi, qu'est-ce que c'est que ce bruit de fond qu'on entend?
Alors c'est le petit moteur, c'est le numéro 1, il me semble, qui est en fonctionnement, donc qui alimente toute la base là en électricité à l'heure actuelle.
D'accord, et donc ici c'est exclusivement le centre électrique?
Centrale électrique et aussi production d'eau avec bouilleur. Donc, on désalinise l'eau de mer qui est puisée un peu plus loin, là près de la piste du Lion, et en la faisant chauffer, elle s'évapore, on recondense de l'autre côté et on obtient de l'eau douce.
Elle a tout bon?
Oh oui, non, mais de toute manière, je lui ai rendu les clés déjà ce matin. J'ai senti que c'était bon.
Voilà.
Qu'est-ce qui se passe?
Une petite alarme. Une alarme dite normale.
C'est quoi une alarme normale, Elvo?
C'est justement les alarmes qui, durant l'été, dues à la chaleur et tout ça, sortent régulièrement et sont sans trop de conséquences, on va dire. C'est une alarme, oui, c'est 76, c'est le plus 4 qui a trop chaud.
En termes pour un néophyte, ça signifie
un, c'est, Voilà, il fait plus 6 degrés dans le frigo qui devrait être à plus 4, c'est le 65. Ah, oui.
Les frigos sont chauffés.
Oui.
Les frigos sont chauffés. Bah oui,
bah oui,
nécessairement.
Évidemment, quand on a du moins 30 à l'extérieur, on est obligé de les chauffer.
T'as trois moteurs, il y en a un qui tourne. Alors là, ça fait un moment, ça doit faire un mois qu'on est sur le numéro 1. Et sinon, tout l'hiver, c'est le 2 qui a tourné principalement. Et on alterne comme ça, suivant s'il y a des révisions à faire. Ou...
Ça permet d'avoir une redondance en cas de problème, d'avoir une sécurité.
Ouais, ou s'il y a un excès de... ou s'il y a une demande trop importante d'énergie, on en démarre un deuxième.
Patrice Bretel.
Je dirais qu'une des caractéristiques, c'est beaucoup d'adaptabilité. On a des profils très très différents et peut-être une petite marginalité quand même dans les participants. Donc des gens atypiques, mais et finalement sur base tout est lissé et le mécanicien, le cuisinier, une personne super importante sur l'ambiance sur base et et à sa façon, il est très très, il est aussi important que le chef central qui pourtant tient la base entre ses mains parce que c'est lui qui va garantir l'énergie. C'est vrai, c'est un vrai partage et je pense que ça vient de l'extérieur. L'avantage de l'inconfort qui fait que les gens sont obligés de partager et c'est une solidarité imposée. Mais je pense qu'on retrouve ça dans les campagnes où j'aime bien faire le parallèle entre le polaire et puis l'agriculteur. On a des aléas météo, on a besoin d'une grande polyvalence technique, on a une dimension psychologique importante, on est un petit peu isolé aussi, et la dimension humaine est assez forte. En fait, je trouve que c'est un bon proxy, comme on dit, l'agriculteur, le polaire, je crois qu'ils peuvent être assez... Ils sont prudents aussi, ils sont modestes. Face aux éléments, faut faire attention à soi. Il y a vraiment... ouais, ce côté très encore lien assez fort avec la nature qui prime.
Qu'on entend là, on entend des sifflements un peu autour de nous. Pourquoi vous pouvez nous raconter ce qui se passe dehors, outre le fait que on donne là sur on donne sur quoi d'ailleurs, Patrice Bretel, racontez-moi un peu ce qu'on voit par la fenêtre.
Là, ben on est donc ben, on voit les petits îlots donc de l'archipel géologie. Donc là, on a face à nous une Polynie qui s'est ouverte. Donc c'est une zone où en fait la glace a débâclé. C'est en partie lié notamment la présence de vent assez fort, puisque les agitations favorisent la débâcle ou limitent aussi le développement de la glace. Donc là, on a des bergs, des plaques autour de nous, des petites vaguelettes là, parce qu'on a un vent assez fort là. On a une 40 nœuds en moyenne, des grosses rafales, des tourbillons entre les bâtiments. Il faut faire attention quand même. Donc en fait, tout ça, ça fait vraiment une population de... C'est un peu comme un équipage de bateau où tout le monde est important et ça, c'est une grande richesse.
Bonjour Alain. Alors ça y est, vous êtes dans votre nouveau bureau.
Oui, enfin, c'est pas encore vraiment mon bureau, hein. Ce sera mon bureau ce soir après la passation de suite officielle.
Vous êtes en train de faire quoi là par exemple ?
Alors là, je suis en train de faire un truc qui est pas forcément ce qu'il y a de plus sympa à faire dans le travail de chef de district, c'est-à-dire que je suis en train de préparer le tour de service base, c'est-à-dire pour le mois qui vient, les gens qui seront amenés à faire la propreté dans le séjour, la vaisselle, etc.
Est-ce que ben, vous pouvez me décrire un peu ce bureau de chef de district ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plein de choses disparates, il y a des symboles de l'État, il y a des cartes. Racontez-moi un peu ce qu'il y a tout autour de vous.
Le bureau par lui-même ressemble un peu à une cabine de bateau. D'ailleurs, le bâtiment ressemble à un bateau lui-même, puisque pour y accéder, il y a des portes étanches, comme sur le bateau. Les fenêtres ressemblent plutôt à des sabords de bateau renforcés.
Ça, c'est l'ex-marin qui parle surtout.
Oui, c'est l'ex-marin. Et puis, non, mais c'est vrai qu'il y a, il y a de grandes similitudes, effectivement, avec ce qui se passe sur les bateaux. Je pense que c'est essentiellement dû aux conditions d'environnement difficiles. Bon, c'est pas la mer qui va venir taper sur les bâtiments, on n'en est pas encore là. Mais effectivement, un fort vent, des tempêtes de neige, des rafales qui peuvent monter jusqu'à 300 km/h l'hiver, ça peut arriver. Donc ça explique effectivement cette architecture.
Et quelques symboles de la République tout de même.
Absolument. Au-dessus du bureau, j'ai la photo du président de la République. Et puis, effectivement, on a une superbe Marianne qui trône sur une étagère, le pavillon National, oui, tout à fait.
Qui vous rappelle que vous êtes ici le représentant de l'État.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Mesdames et messieurs les hivernants, campagnards d'été permanents, mesdames et messieurs. Je suis honorée de pouvoir représenter Madame la Préfète, administratrice supérieure, dans le district le plus éloigné des terres antarctiques et australes françaises, pour la passation des responsabilités entre chefs de district. Cela me donne la possibilité de remercier Hélène Larmé, chef de district 2018, pour l'intégralité de sa mission et de saluer Alain Quivoron, chef de district 2019. Au-delà de cette passation, c'est toute une mission, la 168e mission, les 24 personnes qui la composent, que je suis venue saluer au nom de l'administratrice supérieure des TAF. Et si c'est avec tristesse que nous disons adieu à ceux qui quittent le district, la relève est assurée et c'est une relève enthousiaste et dynamique. Revenons à la Terre Adélie. Elle n'est pas seulement le pied-à-terre de la France sur le 7e continent, ni un poste avancé pour la science. C'est un enjeu stratégique et une responsabilité. Sans plus tarder, je propose que vous procédiez à la passation solennelle.
C'est un plaisir et un honneur.
Je
suis chef de district de la 69. Je te remets la clé du district. Prends-en bien soin.
Merci Hélène.
Merci à toi.
Merci pour tout.
Voilà, je t'ai mis une carte de l'Antarctique où on voit toutes les bases qui sont réparties sur le continent. Et on voit qu'il y en a vraiment beaucoup. On a l'impression d'être isolé ici. Mais en fait, tu vois, il y a au moins une cinquantaine de bases. Et même les petits pays ont des bases, puisque par là, il y a une base roumaine qui est... Je la vois plus. Elle est par là, là. Voilà, il y a des bases indiennes, coréennes. Il y a la Belgique également à une base. Les Allemands, ils en ont plusieurs. Les Norvégiens, tu vois, les Suédois, les Finlandais.
L'Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud également. Il y a des bases de tous les pays du monde. Mais voilà, c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'il y ait autant de monde sur l'Antarctique, même si nos plus proches voisins, comme je le dis, c'est la Station Spatiale Internationale, puisqu'ils sont à 400 km au-dessus de nos têtes.
Il y a déjà eu des liens, des contacts entre les stations polaires et la Station Spatiale Internationale ?
Ici, je ne sais pas. Par contre, j'ai déjà hiverné à Kerguelen, et effectivement, on a eu des échanges de mails avec les astronautes de la Station Spatiale, parce qu'ils voyaient Kerguelen, ils nous ont envoyé des photos de prises de là-haut. Ils voyaient donc l'île de Kerguelen sous la neige, mais ils ne savaient pas où on était. Donc ils ont envoyé une photo et ils m'ont demandé de flotter où on était, donc je leur ai mis un petit point rouge.
Demain, il y a les hivernants, les estivants, ceux qui partent et ceux qui restent, mais partout autour, il y a surtout les manchots, les autres occupants de Dumont-d'Urville. Un été en Antarctique, un reportage de Nicolas Martin réalisé par Yvon Croisier, avec Christophe Dos Santos, Hélène Larmet, Jacques Devaux, Patrice Bretel, Maël Giraud, Éloi Millet, Alain Quivoron, Christine Geoffroy, Pascal Herrera. À suivre.